Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Depuis la semaine dernière, Parcoursup et ses fameux vœux sont ouverts pour tous les étudiants qui se lancent dans ce difficile choix de l'orientation scolaire. Sophie Blomet en connaît bien les rouages. Elle coache depuis quelques temps les jeunes lycéens et étudiants pour les aider à trouver leur voie. Plus question de faire plaisir à son entourage, ses parents, ses professeurs, mais bien évidemment de construire son propre chemin, car cette vie leur appartient. Sophie nous partage ses conseils pour accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire, la posture que l'adulte devrait adopter, comment comprendre Parcoursup et surtout l'importance du développement de la confiance en soi pour faire de cette étape une nouvelle expérience de vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Notre échange arrive à point nommé puisque l'orientation scolaire est à nouveau sous le feu des projecteurs avec l'ouverture récente des vœux sur Parcoursup. Donc on y reviendra, mais avant cela j'avais très envie de te présenter brièvement. Tu t'es passionnée récemment pour l'orientation des jeunes et plus précisément des femmes avec la création de ton entreprise Born to Shine qui, je cite, vise à trouver sa voie pour réussir sa vie. Tu as notamment deux programmes phares pour les lycéennes qui souhaitent trouver le cursus qui leur correspond vraiment et pour les jeunes diplômés qui se sont trompés de voie et qui souhaitent se réorienter. Alors, qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, tu as décidé de te dédier à l'orientation scolaire ?
Eh bien, c'est assez simple en fait. J'ai vécu ce qu'elles vivent aujourd'hui et ça a été quand je m'en suis rendu compte 15 ans après, finalement, ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit que c'était extrêmement dommage que rien n'ait changé en 15 ans. Moi, j'ai suivi les conseils de mes parents qui étaient vraiment très sincères et le plus bienveillants possible, mais je faisais partie d'un milieu où il fallait faire entre guillemets ce qu'on appelle de bonnes études et dans ce qu'ils appellent de bonnes études, je dirais plutôt des études élitistes. Donc, j'avais pas vraiment le choix dans mes études. Et du coup, ils m'ont orienté vers, du coup, une prépa école de commerce. Après ça, j'ai fait une dépression. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'impose finalement, je fasse entendre ma voix. Ils l'ont entendu, ils m'ont écouté, ils m'ont respecté. Et du coup, j'ai pu me réorienter dans ma propre voie. 15 ans plus tard, je me suis rendu compte que il y avait encore des tas de jeunes filles ou garçons qui n'osaient pas faire entendre leur voix, n'osaient pas aller à l'encontre de ce qu'ils pensent être les attentes de leurs parents. Hein. Je remets pas du tout les parents en question, mais parfois dans la tête d'un jeune, il y a tellement de choses qu'on ignore et qui fait qu'il y a des barrières, des blocages, des peurs, qui fait qu'il ne s'écoute pas. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte que 15 ans après, c'est pas l'éducation nationale qui avait trouvé des solutions. Les parents n'avaient pas encore les clés, les jeunes non plus n'avaient pas les clés de la connaissance d'eux-mêmes. Et ce qui fait qu'il y avait encore un quart d'élèves qui se réorientent chaque année.
Mmh, ouais, c'est énorme. Alors, tu as évoqué certaines difficultés auxquelles pouvaient faire face les jeunes pour choisir leur orientation. Est-ce que tu en vois d'autres ?
La principale, vraiment, c'est celle de la non-connaissance de soi. En plus, je pense que vous le savez très bien, dans la méthode Montessori et dans les écoles, même pas forcément que Montessori, mais dans certaines écoles européennes, on a un système où l'enfant va davantage apprendre à se connaître lui. Heureusement, vraiment, je mets pas la faute entièrement sur l'éducation nationale, heureusement, il y a des progrès qui sont faits. Là, depuis l'année dernière, il y a désormais des cours d'orientation, mais bon, on reste sur 2 heures tous les mois par un prof, donc c'est pas énorme, mais le principal problème, ça va être un manque de connaissance de soi. Ils se reflètent, c'est-à-dire que ils pensent qu'ils sont leurs cours, ils pensent qu'ils sont leurs notes, ils pensent qu'ils sont leur succès dans les matières à l'école. Or, ils sont bien plus que ça. Donc ça, c'est le premier frein. Et le deuxième, ça va être la peur qu'on peut rencontrer nous-mêmes en tant qu'adultes, aussi bien dans le travail, dans les relations de couple, d'amitié, de famille, etc. Si on a peur, on va s'empêcher de faire des choses et on va se contraindre à faire certaines choses. Et notamment chez ces jeunes adultes en construction, c'est la peur d'être rejeté en permanence, que ce soit à l'école, par les copains, par les profs, quand on est montré du doigt comme un peu le cancre, mais également par les parents. Si je suis ce parcours-là, si je m'écoute et que je vais à l'encontre de ce que je crois être les attentes de mes parents, est-ce qu'ils m'aimeront encore? Est-ce qu'ils vont me soutenir? Il n'y a pas que dans l'orientation sexuelle, finalement, qu'on a peur d'être rejeté par ses parents. Il y a aussi dans l'orientation scolaire.
Oui, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore cette tendance qui est encore si présente dans le choix de l'orientation des jeunes de faire les bonnes études, entre guillemets?
Alors, c'est une question assez intéressante. Je pense que ça aussi, c'est un effet de société. Les profs, les parents ont tendance à connaître et à recommander les études les plus connues. Aujourd'hui, ça devient un frein finalement sur Parcoursup parce que ce sont les études les plus connues qui sont celles qui vont avoir le plus de candidats, mais qui ont toujours un même si elles offrent le plus de postes, on va dire de places dans leurs écoles, ce sont aussi celles qui il y a un moment donné, ça va bloquer, puisqu'elles ce sont celles où il y a le plus de places, mais aussi le plus de candidats. Donc, par rapport à ta question, je pense que finalement, on s'oriente en permanence vers ce qui est le plus visible dans cette société, surtout quand on ne sait pas encore qui on est. Le nombre d'étudiantes qui viennent me voir pour me dire « Bon, j'ai fait fac de psycho, ou j'ai fait fac de droit parce que mes copines y allaient et que je ne savais pas ce que je voulais faire, ou parce que mes parents m'ont dit « Ce sera toujours bien, c'est correct, c'est général, tu t'y retrouveras toujours, ça te servira pour plus tard. » Et au final, pas du tout. Pas que ça ne serve pas pour plus tard, mais en fait, elles ne s'y retrouvent pas, elles ne s'épanouissent pas. Et du coup, bah, ça entraîne des décrochages scolaires, des dépressions, des dépréciations de soi-même.
Alors, quelle méthodologie, pardon, tu utilises pour accompagner ces jeunes?
Alors, du coup, comme j'en parlais un tout petit peu au début, je disais que pour moi, le principal point de départ, les deux principaux points de départ sont la peur et le manque de connaissance de soi. Et du coup, c'est vraiment les deux points par lesquels je commence, que ce soit aussi bien, donc j'ai deux programmes d'accompagnement, un coaching individuel, mais qui est plus pour les étudiantes, là, qui se sont trompées d'orientation après le bac et qui, on décrochait, on commençait à déprimer. Donc là, vraiment, on va retravailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, qui je suis en dehors des cours, qui je suis en dehors de ma famille, qu'est-ce que j'aime faire, vers quoi je me projette dans l'avenir et quels ont été les freins, finalement, les peurs qui m'ont animée au moment de faire mon premier choix d'orientation. En quoi je peux me refaire confiance et quels ont été finalement les excès de confiance peut-être que ce soit de personnes, d'entourage, ou bien envers moi-même que j'ai eu pour aller dans cette direction. Dans mon deuxième programme de coaching, où là, c'est vraiment pour les lycéennes qui cherchent une première orientation, on travaille les mêmes piliers, mais pas de la même façon, puisque là, il y a pas, il y a un manque de confiance en soi, mais moins important que chez les étudiantes qui ont décroché. Et là, on va d'abord travailler sur les peurs qui pourraient surgir face à l'orientation. Les peurs liées à la famille, les peurs liées à l'échec scolaire, ça, elles sont très importantes. En général, quand on n'arrive pas encore à faire un choix et qu'on est en terminale, c'est certainement, enfin, c'est le plus souvent ce que je vois, c'est que c'est un manque de confiance en soi. On n'ose pas se faire confiance, on doute encore de ses propres choix, on a peur de faire un choix parce qu'en fait, on a peur d'échouer.
Est-ce que tu leur transmets aussi le fait qu'en fait, dans notre société aujourd'hui, les carrières professionnelles sont beaucoup moins gravées dans le marbre? Moi, je le vois autour de moi, ma génération de jeunes trentenaires, le nombre de personnes qui font des reconversions. Je trouve que c'est assez dingue et je me dis que pour ces jeunes-là, ce serait aussi super rassurant de se dire que de toute façon, faire ses études, que ce soit pendant 3 ans, 5 ans, 4 ans, en fait, ce ne sera pas nécessairement déterminant jusqu'à la fin de leur jour dans leur carrière professionnelle.
Complètement, complètement. Et de toute façon, je le vois assez avec mes étudiantes. J'ai déjà des profils qu'on va appeler slasheurs. Les slasheurs, pour ceux qui savent pas, ce sont des personnes qui ne peuvent pas se contenter de faire un seul métier toute leur vie. Ce sont des personnes qui sont multi-activités, multi-passions, multi-créativité aussi. Ils ont plein d'idées à la minute. En général, ce sont aussi des gens qui aiment bien commencer et ensuite qui vont peut-être préférer déléguer la poursuite du projet. Ce sont des lanceurs, on va dire, en général. Donc, j'en vois pas mal. Je pense que c'est aussi une question de génération. On est sur une génération qui est née avec Internet, qui est née avec un monde des possibles qui était beaucoup plus important que celui de ma génération. Donc moi, j'ai une trentaine d'années, donc comme toi, Stéphanie, et celle de leurs propres parents. Et souvent, c'est là où il y a une incompréhension. Bien que les parents, alors moi j'ai vraiment des parents autour de moi qui sont ouverts d'esprit et qui veulent vraiment le meilleur pour leurs enfants, donc c'est pas pour dire que leurs parents ne sont pas adaptés, mais disons que les parents ont quand même encore du mal à comprendre ça, qu'on fait des études pour faire ensuite un métier et éventuellement évoluer dans ce métier-là, mais comment est-ce que justement on fait des études pour faire plusieurs métiers différents? Quelles études on choisit? Et donc c'est vrai que je leur apprends à voir finalement le monde aussi comme un ensemble de possibilités et non pas passer de la peur de l'échec à l'envie du test. C'est ça. C'est on va tester plein de choses pour se faire sa propre expérience, apprendre à mieux se connaître et du coup adapter son propre parcours. Et éventuellement, je fais une première année en fac de droit ou psycho, mais je m'arrête là. C'est pas un échec. On voit comment est-ce qu'on transforme ça en test qui peut être valorisé parce que ça a été une expérience pour moi, une expérience à la fois étudiante, éventuellement plus ou moins professionnelle. Comment est-ce que j'ai appris à mieux me connaître, mes limites? Ça, c'est hyper important de savoir ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas et ce qu'on n'est pas capable d'encaisser ou d'accepter.
Et sur la question des parents, qu'est-ce que tu vois d'un point de vue des résultats? Est-ce que, à travers ton coaching, tu as l'impression que, du coup, ces jeunes arrivent vraiment à prendre leur choix de manière autonome et sans être influencés par ce que leurs parents, leurs grands frères et sœurs ont fait? Qu'est-ce que tu vois, toi, à travers les coachings que tu as réalisés?
Alors, c'est marrant parce que j'ai souvent des parents qui m'appellent avec déjà une idée préconçue de ce qu'ils aimeraient que leurs enfants fassent ou que je les oriente vers ça. Encore la semaine dernière, nouveau coaching, une maman qui me dit « Bon alors nous, on aime beaucoup l'art, on a déjà un enfant qui est en études Sciences Po et puis un autre qui est plutôt vers de l'ingénierie. Là, on aimerait bien qu'il fasse de l'art, celui-là. » C'est le petit dernier, donc voilà, c'est la dernière chance. Et du coup, bah vraiment, les enfants le sentent. Du coup, le jeune est venu me dire à la première séance, ça serait bien quand même que je trouve peut-être quelque chose en l'art. Ça serait bien. Mais ça veut pas dire j'en aurais vraiment envie. Il a beau être, effectivement, il aime aussi l'art, la musique, l'histoire. Il n'en a pas finalement quand même envie d'en faire son métier. C'est important que ça reste une passion, un hobby. Du coup, l'important, c'est que j'apprenne. Pour moi, l'important, c'est vraiment déjà de remettre les parents dans un contexte neutre, c'est-à-dire que ni eux ni moi ne sommes là pour définir l'avenir de leurs enfants, c'est à leurs enfants de le définir pour eux-mêmes, et du coup de redonner les clés à ce grand enfant, ce jeune adulte, pour qu'il s'approprie ses propres décisions et son propre avenir.
Et comment tu fais pour toutes les questions financières? Parce qu'on sait, par exemple, qu'il y a certaines filières où il y aura moins de débouchés professionnels. Enfin, en tout cas, c'est les croyances qui sont souvent bien ancrées dans notre société. Qu'est-ce que tu fais de tout ça par rapport au choix des jeunes?
Alors, effectivement, comme tu l'as dit, c'est quand même une croyance, surtout que la plupart des métiers de demain n'ont même pas encore été inventés et les études pour ces métiers-là n'existent pas encore. En général, c'est sur l'expérience, c'est en faisant ces métiers-là, c'est en les pratiquant qu'on va finalement les créer et aussi du coup inventer des études qui correspondent. Donc ça, vraiment, c'est une idée que les médias souvent véhiculent, qu'une rumeur type le c'est bien connu ou que Xavier le voisin, Charlotte la cousine nous a mis dans la tête. C'est souvent bien faux. Ensuite, ce que j'invite à faire, si c'est l'angoisse des parents, j'invite quand même à s'interroger sur c'est la vie de qui dont il s'agit, c'est l'avenir de qui dont il s'agit. Finalement, quelles sont les attentes du parent vis-à-vis de l'enfant et des études de l'enfant? Et là, en fait, j'invite vraiment les parents à se réinterroger sur quelles sont leurs projections sur leurs enfants. On projette tous quelque chose sur nos enfants. Moi, je suis même pas encore maman, mais je sais que c'est souvent déjà le cas avant même qu'on soit parents. On a des idées de ce qu'on aimerait pour leur futur. Et puis ensuite, une fois qu'on a repris conscience que finalement c'est leur bonheur qui nous importe le plus, de discuter avec le jeune et d'écouter, surtout bien d'écouter sa propre vision de son avenir, de ses attentes, de qu'est-ce que lui juge important pour son propre bonheur. Et enfin, le dernier conseil que j'aime bien donner, c'est aller à la rencontre de professionnels du domaine qui vous semble être peu porteur d'emploi. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être lors des journées portes ouvertes. Parlez avec eux, demandez-leur comment se porte le marché de l'emploi de ce métier-là, de ce domaine-là. Et en plus, les gens adorent parler d'eux, la preuve sur ce podcast. Donc, vous ne rencontrerez jamais de personnes qui vous disent « Ah non, j'ai pas du tout envie de vous parler de mon expérience professionnelle, de mon parcours étudiant pour en arriver là, ni de mes missions professionnelles. » Ça m'étonnerait très fortement.
Tu donnes aussi quelques étapes pour trouver sa voie. Tu en as donné trois, notamment dans un guide qui est disponible sur ton site. On redonnera le lien dans la description de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous les citer, notamment pour tous les parents ou même les enseignants qui nous écoutent et qui accompagnent les jeunes dans cette étape difficile?
Oui, tout à fait. Donc, c'est sans surprise, ça va rejoindre ce que j'ai commencé un petit peu à raconter. Donc, la première étape, c'est vraiment de reprendre confiance en soi et notamment en dépassant ses peurs, les peurs de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de décevoir ses parents, etc., etc. Donc, vraiment de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance et conscience de soi. Ensuite, d'apprendre à se connaître soi-même. Et c'est pour ça que je parle de conscience de soi, finalement. En apprenant à se connaître soi-même, on va regarder quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses passions et ses rêves. Je parlais de la projection de demain, finalement. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On se la posait à 3 ou 4 ans, on savait quoi y répondre. En se la posant aujourd'hui, face à toutes ces peurs qu'on a, on n'ose plus sortir un mot. Voilà. Donc, c'est important de se reprojeter sereinement dans son propre avenir, sans épée Damoclès, on va dire, au-dessus de la tête. Donc ça, c'est la deuxième étape, d'apprendre à se connaître soi-même, de prendre conscience de soi. Et enfin, la troisième étape, c'est finalement d'avoir une bonne méthodologie pour trouver sa voie. C'est de savoir quelles sont les étapes à respecter, on va dire. On parle de Parcoursup en l'occurrence, mais pas que. Il y a notamment, ne serait-ce que pour Parcoursup, moi j'ai identifié 22 micro-étapes, j'entends bien micro-étapes, mais il y a un certain nombre d'attendus par les élèves qui, s'ils sont pris à la légère, malheureusement, font que le dossier n'est pas retenu. Et malheureusement, moi je rencontre des élèves qui n'ont pas été retenus par Parcoursup, sur Parcoursup, qui n'ont pas eu leur vœu, qui finalement, une fois la remise en question acceptée, me disent « Oui, en fait, c'est vrai, je m'y suis pris à la dernière minute parce que j'avais aucune envie de m'y mettre. » En fait, ça m'angoissait tellement, crise d'angoisse, très souvent, ne serait-ce que d'aller à un salon étudiant, il y en a beaucoup qui me disent que ça a généré en eux une énorme crise d'angoisse, de se dire « Tout le monde sait ce qu'il veut faire et pas moi, donc je ferme l'ordinateur, je quitte le salon, etc. etc. » Et j'ai des élèves qui, dans ces cas-là, me disent « Je m'y suis mis à la dernière minute. » J'ai fait le minimum attendu, et mais le minimum ne convient pas, pas pour être accepté dans son vœu de rêve, j'ai envie de dire.
Et comment on fait quand on est un étudiant qui se réoriente j'ai vu sur ton site que tu disais un étudiant sur cinq se réoriente la première année après le bac, ce qui est quand même énorme. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment ça se fait qu'il y ait autant d'étudiants qui se réorientent? Qu'est-ce qui fait qu'ils en arrivent là et comment faire pour bien les accompagner et dans ce que tu disais, cette potentielle grande perte de confiance en eux?
C'est un étudiant sur cinq. Pour être très précise, c'est 183 000 étudiants qui se sont réorientés l'année dernière. Juste pour les étudiants qui venaient d'avoir le bac, hein, en 2019, hein, enfin, en 2021, pardon, c'est 183 000. Et c'est 40% des étudiants qui, au cours de leurs 5 années d'études, vont se réorienter. Parce que j'en ai aussi qui viennent de finir leur BTS et qui me disent « Non, mais en fait, voilà, j'ai écouté ce qu'on m'a dit de faire les deux premières années, j'ai eu mon diplôme, voilà, maintenant il est temps que je m'écoute, vers quoi je m'oriente ?» Donc, voilà, les chiffres de réorientation sont assez importants. Les chiffres de réorientation viennent d'où ? Viennent souvent, donc on l'a dit, hein, de personnes qui ont mal fait leur choix parce qu'ils n'ont pas su s'écouter. Et le parcours finalement pour se réorienter, c'est en général, j'ai plus envie d'aller en cours, j'ai plus envie de me lever le matin, j'ai pas de motivation, je suis déjà de mauvaise humeur, j'ai mal au ventre, je traîne sur le chemin d'aller en cours. Donc ça va peut-être durer un mois. Dès les premiers signes, faut vraiment faire attention. Je pense pas que les élèves soient feignants. Moi, j'en ai pas autour de moi. Je pense que on est feignant entre guillemets quand finalement ça ne nous plaît pas. Et si ça nous plaît pas, bah, c'est qu'on n'est pas dans la bonne voie. Autant au lycée, parfois, on n'a pas tant le choix. Et encore, je suis pas forcément d'accord. Mais surtout, enfin, dans les études supérieures, on a le choix. Donc, ne pas hésiter à tout de suite changer dès qu'on sent que c'est pas le bon moment. Après, si on est sur un élève qui change trop souvent, trop vite, c'est peut-être qu'il faut aussi se poser d'autres questions. Mais donc on commence par des petits symptômes qui passent un peu inaperçus et on se dit juste oui non mais c'est que tu mets pas assez du tien. Et eux-mêmes les élèves me disent j'étais pas sûre de moi, j'avais des doutes, OK arrêtez ça mais pour faire quoi? Du coup j'ai persévéré et je me suis dit que c'était de la mauvaise intention de ma part et c'est pas le cas. Ils persévèrent. À trop persévérer, on peut aller vers des phobies scolaires et du coup du décrochage scolaire et c'est souvent malheureusement à ce moment-là que moi je les récupère. Et du coup si on en est arrivé au décrochage scolaire, il leur faut un temps avant de venir vers moi. En général, ça peut passer par soit un temps de récupération physique, de repos, vraiment, peut-être des vacances. C'est vraiment nécessaire parfois. Aller une semaine, bon, au soleil, là, on va à voir où c'est possible, ou chez mamie à la campagne. Enfin bref, se faire dorloter, ça c'est important. Et sinon, ne pas hésiter à voir un ou une psychologue, ça c'est important, d'oser parler de ce qui a entraîné cette dépression et ce décrochage scolaire. Ensuite, à partir de là, il faut avoir aussi digéré ce qui leur semble être un échec. On verra qu'ensuite on le transformera en expérience et en expérience valorisante. Ça c'est mon travail ensuite. Mais d'abord, pour qu'ils viennent me voir, il faut quand même qu'ils aient digéré. Heureusement, en ce qui concerne la réorientation, j'ai très souvent des élèves qui se prennent en main et qui m'appellent. Beaucoup moins de parents. Sinon, je sais que si les parents m'appellent, de toute façon, ça fonctionnera pas parce que moi, je travaille avec l'élève, donc faut que ce soit lui qui soit partant, lui ou elle. Et une fois que l'échec, entre guillemets, est digéré, en tout cas l'expérience qui a mal été vécue est digérée, eh bien là, on commence à travailler sur qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a écouté? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a lu? En quoi on a cru pour finalement faire ce choix? En quoi on n'a pas cru aussi? Est-ce qu'on ne se faisait pas confiance à soi? Est-ce qu'on n'a pas écouté son intuition? Etc. etc. Et ensuite, je reprends un petit peu les mêmes étapes que je vous disais tout à l'heure. Là, je replonge dans « Ok, mais en dehors des cours, qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes faire ?» Une question que j'aime bien souvent poser, c'est si on avait toute la soirée nuit blanche pour discuter, de quoi tu aimerais parler? Et souvent, ça peut arriver, hein, on a des parents qui nous connaissent depuis tellement longtemps, on dit souvent, hein, je te connais comme si je t'avais fait, ils nous en fait, mais ils ne nous connaissent pas si bien que ça. Et ça, c'est difficile pour les parents à accepter, ils connaissent l'enfant qu'ils ont à la maison, Ils ne connaissent pas l'enfant qui est avec leurs amis. Ils ne connaissent pas l'enfant qui est à l'école. Voilà, ils ne connaissent pas le jeune adulte qui est en train de se construire et qui n'ose pas montrer sa ce qui est en train de se former au fond de lui-même. Donc il y a plein de choses qu'ils ignorent de lui. Et j'ai des étudiants qui sont super doués en jeux vidéo. J'ai des étudiants qui sont super doués en musique. Pour certains, c'est pas des métiers, c'est pas des études, mais en fait, ça dénote de plein de choses. Le talent musical, ça dénote aussi d'une certaine créativité, d'une certaine persévérance, d'une certaine détermination, d'une certaine faculté à se servir d'une autre partie de son cerveau qu'on n'utilise pas à l'école, en tout cas pas souvent. Et dans les jeux vidéo, c'est exactement pareil. Il y a énormément, il faut aller au-delà de ce qui leur semble être un loisir, un hobby, voire même parfois de la fainéantise.
Alors pour ces élèves qui se réorientent, ils doivent repasser par cette étape cruciale comme celle des élèves qui sont en terminale et qui passent leur bac, qui est celle de Parcoursup. Donc on est en plein dedans et j'aurais bien aimé quand même qu'on parle un petit peu de ce que tu penses déjà de ce système parce que je pense que tu le connais bien. Et ensuite, des conseils que tu aurais à donner pour les jeunes ou les parents qui nous écoutent par rapport à ce système qui a souvent l'air d'être un peu une machine à gaz.
Oui, alors il y a une grande polémique autour de Parcoursup. Bon ou pas bon, est-ce que c'est un bon système? Je pense pas que ce soit un aussi mauvais système qu'on aimerait le croire. Parce que bon, l'État clairement est plutôt favorable à ce système qu'il a mis en place. Après, les parents, les élèves adorent le détester parce que je pense que d'une certaine façon, ça nous arrange bien. Parce que tant qu'on n'a pas compris les rouages aussi de Parcoursup, c'est un petit peu compliqué de se dire à quel point c'est quand même un bon système. C'est pas un système parfait, c'est pas un système idéal, mais c'est quand même un système. Un bon système. On n'est pas du tout Parcoursup n'est pas du tout un système d'orientation scolaire français, enfin de répartition dans les classes français. C'est un système, on va dire, ni mondial ni européen. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui s'appelle l'algorithme des mariages stables et qui est utilisé dans d'autres pays, que ce soit aussi bien pour l'orientation donc en études supérieures ou dans d'autres domaines comme par exemple les systèmes de rencontres amoureuses ou parfois aussi en entreprise pour voir si un profil correspond à un poste à pourvoir. Après, ce que j'explique souvent, c'est que, et d'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, pour détailler vraiment cet algorithme, l'algorithme s'appelle donc un algorithme des mariages stables. On n'a pas dit des mariages heureux, d'accord ? Et c'est là la petite nuance, c'est que déjà c'est un algorithme qui va voir en fonction de certaines compétences qu'on a renseignées, donc le fait de bien renseigner son dossier, son fichier sur Parcoursup est très important, parce que non seulement l'algorithme va s'en servir pour vous faire matcher avec les attendus de l'école, et ensuite il y a une autre particularité là qui est une particularité française, c'est que on a rajouté une étape à Parcoursup pour pas laisser finalement un pouvoir ultime à un algorithme, à une machine, c'est la commission des vœux. Donc la commission des vœux, c'est chaque établissement qui évalue chaque candidature qu'il a reçue, lui attribue une note pour classer finalement sa candidature par rapport aux autres élèves qu'il a également évalués. Donc là, c'est là, entre l'algorithme et cette commission des vœux, l'importance de bien préparer son orientation. Et quand je dis son orientation, c'est à la fois son projet professionnel motivé. Donc c'est ce qui ressemble un peu à une lettre de motivation sur Parcoursup. Il faut qu'elle soit cohérente, hein, bien sûr, avec ses vœux. Et du coup, qu'on ait bien renseigné son profil correctement. Et c'est là que ça pêche, en général, pour les étudiants que moi, je récupère en réorientation. Ils me disent, ah ouais, le profil, ah, le truc où il y a 4 sections, là, où j'ai mis, je sais pas, ah oui, d'accord, ok, c'est bien ça. Eh ben oui, c'était bien ça, parce que là, vous étiez censé faire en sorte que votre profil match avec les attendus de l'établissement. L'établissement, c'est très simple, hein, sur Parcoursup, ils sont indiqués, donc c'est pas du tout... vraiment, Parcoursup fait des énormes efforts pour être de plus en plus transparent avec les élèves, mais à condition effectivement que les élèves fournissent un travail. Et c'est ça qui est quand même assez compliqué pour eux, c'est que on se rend pas compte, mais il y a un nombre d'heures par semaine à consacrer à son orientation.
Ils y consacrent certainement pas assez de temps, que ce soit pendant les heures de cours ou après les cours, le week-end, etc.
Ouais, parce que en fait, ils ont aussi les devoirs, ils ont aussi les alors bac blanc que même qu'on soit en première ou en terminale, voilà. Ils ont aussi les SP, ils ont aussi bah de temps en temps quelques activités extrascolaires. Moi ça, j'ai pas mal d'élèves finalement les élèves les plus stressés par leur orientation sont souvent les entre guillemets les têtes de classe. Moi j'ai des élèves qui en plus des SP obligatoires se sont rajoutés des options, qui en plus d'au moins enfin voilà, des cours ont au moins une ou deux activités extrascolaires, etc., etc. Donc ça fait plus beaucoup de temps alloué. On vit hein, dans une société où il faut tout le temps être en train de faire quelque chose, et du coup on n'a plus le temps de prendre son temps et de ne rien faire. Et voilà, effectivement, on ne prévoit pas assez de temps à Parcoursup si ce n'est aller à un salon une fois de temps en temps en première et d'autant plus en terminale, mais les salons, c'est pas le meilleur endroit pour trouver sa voie.
Mmh. Justement, j'allais te demander ce que tu en pensais des salons.
Alors, les salons, c'est un bon outil, un outil qui est assez récent, hein, ça date de la fin des années 80, début 90, donc c'est encore assez récent, mais peut-être que je suis un peu vieille pour dire ça, c'est pour ça, mais en tout cas, c'est un bon outil pour confirmer sa voix. Ça ne sert pas à trouver sa voix, et surtout, il ne faut pas aller dans des salons dits généralistes, les salons de l'étudiant lambda, entre guillemets. Il faut aller dans un salon d'étudiant spécialisé communication ou journalisme, il faut aller dans un salon étudiant spécialisé ingénierie ou art et musique, etc. Il faut aller vraiment dans des salons spécialisés et non pas dans des salons généralistes, parce que dans les salons généralistes, il y a que les écoles les plus riches qui sont capables de payer leur ticket d'entrée pour vous dire à quel point elles sont formidables. Bon, on les connaît, hein, donc on n'a peut-être pas forcément besoin de se rendre là-bas pour s'en rendre compte. On va avoir plein d'idées, plein de conférences. Encore une fois, hein, c'est les écoles les plus riches qui auront payé les conférences, donc on va être orienté à aller vers ces formations-là. Et c'est pas forcément celles qui nous conviennent, mais ce sont celles qui sont les plus remarquées et remarquables. Donc là, c'est une question d'image. En général, parfois, on a besoin de se rassurer au niveau de l'ego en disant qu'on est pris dans telle ou telle formation, dans telle ou telle école, et que ça fait bien, effectivement, auprès de la famille, des amis ou sur le CV. Donc plutôt préférer les salons spécialisés. Et les salons spécialisés, ça sert, enfin, ou les salons de manière générale, ça sert à deux choses. Donc, confirmer sa voix en parlant, en écoutant les quelques conférences qu'il y aura sur justement une thématique spécialisée qu'on attendait, et en allant à la rencontre des professionnels et des étudiants sur les stands, premièrement. Et ensuite, deuxièmement, à faire sa liste des vœux. Parce que dans votre liste des vœux, vous n'allez pas indiquer une voie, vous allez indiquer un établissement. Je voudrais aller dans la prépa machin, dans la fac bidule ou dans l'école privée Intel. Et donc, pour pouvoir faire ces vœux-là, parce que pour une voie étudiante, on a toujours la possibilité de choisir des formations, des types de formations différentes, que ce soit fac, école privée ou peut-être plus sélective quand ça va être prépa, etc. Donc, on a plusieurs types de formations possibles pour une même voie étudiante. Donc, c'est là l'intérêt de faire un salon spécialisé, c'est du coup d'aller à la rencontre de ces différents établissements et de commencer à checker si tel établissement correspond bien à ses attentes. Et là, les attentes personnelles, ça peut être est-ce qu'elle est près de chez moi ou à l'inverse, est-ce qu'elle est loin de chez moi ? Est-ce que je veux vivre ou pas chez mes parents ? Est-ce que elle permet un cursus peut-être à l'étranger ? Est-ce que moi j'ai envie d'aller étudier à l'étranger ? Est-ce qu'elle permet des activités extrascolaires ? Voilà, etc., etc. Et là, c'est vraiment de checker qu'est-ce qui nous permettrait de nous épanouir dans notre vie étudiante et de vérifier quels sont les différents établissements qui permettent de matcher avec ces attentes. Donc l'idée, c'est vraiment que les salons étudiants te permettent de repartir avec ta liste des 10 vœux.
Oui, bien sûr. C'est super concret. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner sur la posture à adopter de la part des parents? Par exemple, sur l'implication avec Parcoursup, sur l'accompagnement au salon, quel niveau d'implication tu penses qu'il faudrait avoir pour ce projet-là?
Alors, pour moi... après c'est peut-être facile à dire hein, de par mon métier et de par ma position de non-parent justement, mais pour moi les parents, leur rôle il doit être un rôle de soutien, vraiment principalement et uniquement de soutien, c'est-à-dire je suis là pour toi pour te soutenir dans tes recherches, pour t'aider dans tes recherches si tu en fais la demande. Il faut aussi responsabiliser l'enfant face à son avenir. Je sais que certains parents les voient encore comme des tout petits jeunes, et c'est vrai, à 17, 16, 17, 18 ans, ils sont encore très jeunes, mais c'est leur premier choix de vie, c'est pas facile, ça fait peur, mais justement, il faut apprendre à ce moment-là à faire un pas en arrière. Et pourquoi pas se poser la question, parce que j'ai pas mal de parents stressés qui me disent « Oui, mais s'il fait rien par lui-même, il faut que je fasse à sa place. » Non, pas forcément. Et au pire, il se passerait quoi, justement, si vous faisiez rien à sa place ? « Ah ben, je sais très bien ce qui va se passer. Il va se passer qu'il va rien faire, il va rien avoir comme veut, etc. etc. » Et oui, et d'accord, et c'est quoi le pire dans ces cas-là ? Au final, bon, se poser la question, finalement, c'est quoi le pire ? C'est quoi le pire ? C'est quoi le pire ? De fil en aiguille à chaque question, de se rendre compte que finalement, au pire du pire, il n'a pas... Après le bac, il ne rentre pas en études supérieures. Mais ce genre de parents, en général, ne laissent pas leurs enfants ne rien faire. Du moins, ils leur laisseront peut-être le temps de la réflexion, de digérer aussi qu'ils ne sont pas eux-mêmes en études supérieures, alors que tous les copains sont en études supérieures. Et ils les inciteront à quand même ne pas passer leur journée à glander, à traîner à la maison. Donc du coup, cette année-là, de temps off, elle peut être hyper intéressante pour le jeune. Ça peut être le moment, bah, justement, de prendre conscience de l'importance de se responsabiliser. Ça peut être le moment de commencer une petite expérience professionnelle pour passer le temps et pour tester différentes choses. Ça peut être le moment de partir à l'étranger pour se faire une expérience supplémentaire. Enfin voilà, au pire, voici ce qui pourrait se passer. Je suis sûre et certaine que ce serait hyper bénéfique pour le jeune. Donc, sachant ça, en fait, on a tout intérêt en tant que parents à d'autant plus faire confiance aux enfants, qu'ils sont capables de se responsabiliser, qu'ils sont les meilleurs pour juger de leur propre vie, même si, eh bien, ça commence par, on va dire, voilà, j'aime pas parler d'échec, mais on va dire un loupé, et voilà, ils ont loupé la marche, mais ils vont se rattraper, ils vont remettre le pied sur la suivante, c'est pas un problème. Donc vraiment, d'être juste là comme soutien, de garde, de parler de ses peurs. On peut parler de ses peurs en tant que parent à ses enfants, on peut aussi surtout en parler avec son conjoint, et peut-être on peut aussi se faire accompagner. Alors moi je serais pas la bonne personne, mais on peut aller voir quelqu'un pour apprendre justement à laisser nos enfants se responsabiliser. Et ça, du coup, ça passe aussi par une conversation quand même, hein, avec un engagement mutuel, en disant « je suis là pour t'apporter tout mon soutien, je te laisse faire à ta façon, mais je te donne la responsabilité de ton avenir, de tes recherches d'orientation, et tu n'hésites pas si tu as besoin, mais il faudra que tu le demandes. » Voilà. Donc, bien être là en tant que soutien et laisser les enfants se responsabiliser. Après, l'inviter évidemment à réfléchir à ses forces, ses faiblesses, ses passions, ses valeurs. Mais parfois, on ne sait pas par quel bout commencer. Du coup, bah, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, sur mon site, il y a ce guide qui s'appelle « 3 étapes pour trouver sa voie étudiante » qui est téléchargeable gratuitement. Il vous suffit juste de laisser vos coordonnées et puis vous allez le recevoir dans votre boîte mail quelques minutes après. Là, j'ai également créé un challenge que je donne pour la dernière fois en version live cette semaine, c'est pour ça que tu disais que j'étais un peu chargée, qui s'appelle « Aussi 3 jours pour trouver ta voie étudiante ». Et désormais, donc à partir de la semaine prochaine, il sera disponible en replay. Donc pareil, en renseignant ses coordonnées, on pourra le suivre en replay. Et justement, dans ces 3 jours, une des séances est consacrée à ça. C'est comment on se pose des questions de c'est quoi mes forces, c'est quoi mes talents, comment j'arrive à les identifier. C'est quoi ma vie de rêve aussi, ça on en parle dans l'une des 3 séances. Donc ça peut être des premières pistes pour aborder les questions avec son enfant. Ça peut être de lui dire juste, voilà, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses, je te laisse t'inscrire. Parce que ne surtout pas dire, souvent je sais que les parents me disent, ah non mais si je lui dis que j'ai vu ça, il va me rironner, il va surtout pas aimer. Oui, c'est très bien, envoyez-lui le lien, laissez-lui regarder, et par contre ce sera à lui de s'inscrire, s'il en a vraiment envie, s'il sent que c'est nécessaire, que c'est utile pour lui. Parce que s'il vous rironne, c'est que peut-être en fait lui là n'en ressent pas ni le besoin ni l'envie, et que c'est peut-être pas la solution qu'il attend. Ça, c'est la solution que vous aviez en tête, mais c'est peut-être pas la solution qui lui correspond aujourd'hui. Donc, c'est pas grave. Ce que je propose et que je crée, et en mettant à disposition gratuitement aux étudiants, n'est peut-être pas toujours fait pour tout le monde. Je réponds peut-être pas toujours à toutes les attentes. Donc, c'est pas grave. Une dernière chose à laquelle je pense, qui peut être un bon exercice à faire, justement pour se poser cette question de tu veux faire quoi plus tard. Et quand je dis ça, c'est pas forcément tu veux faire quel métier plus tard, mais tu veux faire quoi plus tard, c'est quelle vie tu voudrais avoir pour plus tard. Ça, c'est un exercice qui peut être très 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 sympa à faire en famille, quels que soient les âges des membres de la famille et même des parents. C'est finalement un tableau de visualisation de sa vie de rêve. Moi, j'ai 32 ans. Je suis en couple et tous les ans avec mon chéri, eh bien, on refait un tableau de visualisation de qu'est-ce qu'on rêve pour notre vie. Alors là, on a décidé de faire un tableau pour nos 40 ans. Voilà, c'est dans un petit moment. Et en fait, ça nous permet, bon, on est en couple, donc ça nous permet à tous les deux de vérifier qu'on va dans la bonne direction, qu'on est bien aligné et que du coup, on se correspond encore. Dans une famille, c'est la même chose. Finalement, on va mettre des rêves pour l'ensemble de la famille. On va le travailler tous ensemble. Ça nous permet de vérifier qu'on a bien les mêmes valeurs, qu'on a bien envie de mettre les mêmes efforts dans la famille, qu'on a envie de faire des efforts pour aller dans la même direction, etc., etc. Et surtout, ça permet de donner à chacun aussi une place. Où est-ce que je me situe dans cette famille? Une fois qu'on a fait l'exercice en famille sur à quoi on aspire d'ici 10 ans, quelle famille on voudrait être d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'on voudrait avoir fait ou réalisé d'ici 10 ans, eh bien, c'est aussi plus facile à faire par individu. Et ça peut être voilà la deuxième étape de l'exercice. Maman, papa, la petite sœur, le grand frère, etc. Chacun montreront leur tableau de rêve, de visualisation de rêve, voilà, pour leur prochaine année ou leurs 10 prochaines années, etc.
Oui, bah c'est super. Merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était super intéressant et je suis sûre que Sylvie était complètement alignée avec tout ce que tu as dit. C'est aussi pour ça que je l'ai pas fait participer, parce que je sais que c'est sa philosophie de vie à elle aussi. Mais franchement, c'est génial. Et j'invite aussi tout le monde à aller voir ton site et ton podcast. Tu as des épisodes qui sont passionnants. Et d'ailleurs, tu as dédié quelques épisodes sur Parcoursup. Donc, tous les parents qui passent par cette étape, je pense que ce sera très enrichissant pour eux. Donc, merci pour tout ce que tu fais. C'est précieux d'accompagner ces jeunes vers une vie qui leur correspond vraiment. Donc vraiment bravo et merci pour ton temps.
Merci à vous deux de m'avoir reçu. Je suis ravie si effectivement tout ce que je racontais correspondait aussi à votre vision de nos futurs enfants adultes et, voilà. Et de la vie. Merci.
Merci, à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.